France Inter.
Bonjour à tous. À la une ce matin, des étudiants toujours mobilisés contre la guerre à Gaza et des lycéens qui rejoignent le mouvement. Aux États-Unis, plusieurs évacuations ordonnées dans différents campus. D'autres établissements privilégient le dialogue. Reportage à Berkeley, près de San Francisco, dès le début de ce journal. En France, les lycéens promettent des actions et des blocages dès lundi. Dans l'actualité aussi, les escroqueries en ligne, toujours plus nombreuses. Le ministère de l'Intérieur a scruté ces infractions pour mieux les comprendre. Et puis on fêtera les 80 ans de Dave, le chanteur de Vanina, ou du côté de chez Swan, avant vos invités à 8h20, Ali et Marion.
Apprivoiser nos peurs pour traverser ce siècle, c'est l'objectif de nos deux invités, Pablo Servigne et Nathan Obadia, militant écologiste et thérapeute instructeur en arts martiaux. Ils signent Le pouvoir du suricat aux éditions du Seuil, où l'on apprend comment transformer nos craintes en moteur pour l'action.
Vos questions, vos témoignages également, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter.
France Inter.
Une délégation du Hamas est au Caire ce samedi pour poursuivre les discussions afin de trouver un accord avec Israël sur une trêve dans la bande de Gaza. Ce conflit et ses échos dans les universités du monde entier. Plusieurs universités ont été évacuées ces derniers jours, comme celle de UCLA sur la côte ouest. D'autres établissements privilégient le calme et le dialogue avec les étudiants, comme sur le campus de Berkeley près de San Francisco. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Sébastien Paour.
Les tentes de toutes les couleurs sont plantées devant le Sproul Hall, le bâtiment principal de Berkeley. On a commencé avec 30 tentes, on est maintenant à plus de 150, peut-être 175. Yazen Kaslan est le porte-parole du jour pour ce camp Palestine. On est en pourparler avec l'université, on croise des doigts, elle est à l'écoute. Ils sont en train d'examiner en détail les quatre demandes qui sont résumées ici. Elles sont sur une banderole sur la façade du bâtiment, notamment la fin des investissements de l'université en lien avec Israël et la fin du silence sur ce qui se passe à Gaza. Ce qui nous amène ici, c'est le carnage, les bombes qui sont larguées, le carnage qui se poursuit. Ici, pas d'affrontement avec la police depuis bientôt deux semaines. L'histoire de New York, interpellation et fouille est bien connue. Ici, la culture policière est très différente. On a de la chance. Les flics voient à quel point le mouvement est pacifique. Mais l'étudiant en deuxième année de doctorat d'économie regrette l'attitude de Joe Biden et son discours jeudi. Sur ce que peut faire le commandant en chef, c'est embarrassant. Son incapacité à prendre des décisions. La jeune génération en a assez de l'hypocrisie des personnes âgées qui sont dans les institutions aujourd'hui. Les temps changent. Il rappelle que le mouvement pour la liberté d'expression et la fin de la guerre du Vietnam est parti d'ici, dans les années 60, et que les étudiants avait fini par obtenir gain de cause. Berkeley, Sébastien Paour, France Inter.
En France aussi, les mobilisations étudiantes se poursuivent. Hier soir, la direction de Sciences Po Lyon a annoncé une fermeture administrative jusqu'au 12 mai. Même traitement à Sciences Po Paris où les portes resteront fermées toute la semaine prochaine. Et après les étudiants, les lycéens promettent des actions dès lundi. Le porte-parole de l'Union syndicale lycéenne, Gwen Thomas-Alves, était hier soir sur France Info.
Il doit y avoir une convergence entre les étudiants et entre les lycéens. Et donc c'est pour ça qu'on appelle au blocus lundi et mardi pour le cessez-le-feu et pour la reconnaissance de l'État palestinien. Ça fait depuis 7 mois qu'on participe à des conférences, qu'on manifeste ou alors qu'on fait des rassemblements. Et il ne se passe toujours rien. Il y a toujours 35 000 personnes qui ont été tuées dans la bande de Gaza. Et donc pour nous, il y a une importance ultime de pouvoir être du bon côté de l'histoire et de pouvoir bloquer nos établissements comme ce qu'ont fait les étudiants aux États-Unis et qui après s'est exporté un peu partout dans le monde. Nous, les remontées de terrain qu'on a, elles sont très claires. C'est qu'il y a une envie de pouvoir se mobiliser parce que les lycéennes et les lycéens ont l'impression de rester les bras croisés face à ce qui se passe. Quand on parle de radicaliser le mouvement en bloquant les lycées, il n'y a pas un seul moment où on parle de violence. Nous, la violence, on ne la légitime pas. On veut juste avoir une action symbolique qui est le blocus.
8h04, Victor, et après des mois de tractations, on en sait un peu plus sur la liste Renaissance pour les élections européennes.
Oui, on prend les mêmes et on recommence, ou presque, 30 premiers noms dévoilés sur la liste de Valérie Ayé, mais aucune surprise ni nouvelle tête. On retrouvera Nathalie Loiseau, Bernard Guetta ou encore Pascal Canfin. La présentation du programme est prévue pour lundi avant un meeting à Paris mardi soir. On savait que les escroqueries informatiques ou encore le cyberharcèlement avaient explosé ces dernières années. Mais pour la première fois, le ministère de l'Intérieur et son service des statistiques ont étudié l'évolution de ces infractions en ligne entre 2016 et 2023. Au total, ce sont près d'1 700 000 crimes et délits qui ont été passés au peigne fin, Emmanuel Leclerc.
Les policiers et les gendarmes les appellent les atteintes numériques aux biens, tout d'abord les plus massives. Ces attaques commises au moyen d'un outil informatique et entre 2016 et 2023, elles ont augmenté de 8% chaque année. 165 200 encore l'année dernière, 79% sont des escroqueries. Et on attend évidemment un pic avec les prochains Jeux Olympiques, notamment pour ce que l'on appelle le phishing, à partir de mails corrompus pour obtenir des rançons. Et là, les victimes de ces délits sont autant les hommes que les femmes. Mais il y a aussi les atteintes directes aux personnes, avec notamment du harcèlement en ligne ou encore du voyeurisme, du proxénétisme. Et là, les femmes sont en moyenne deux fois plus menacées que les hommes, 67% contre 33% des plaintes recensées. À noter que le nombre de mineurs victimes de ces infractions numériques a augmenté de 12% en moyenne chaque année depuis 2016. Et souvent, les agressions sont mixtes, atteintes aux biens et aux personnes en même temps, quand il y a chantage et extorsion, accompagnées d'injures par exemple.
Emmanuel Leclerc du service police-justice de France Inter.
Et c'est un curieux ballet qui se joue à Argelès-sur-Mer depuis une semaine.
Oui, entre 5 et 6 autobus arrivent chaque soir dans cette commune des Pyrénées-Orientales. Des bus remplis de Catalans qui viennent voir le leader indépendantiste Carles Puigdemont, toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt depuis sa tentative de sécession en Catalogne en 2017. Il fait donc campagne pour les élections régionales du 12 mai depuis Argelès. Reportage Mélanie Juvet de France Bleu Roussillon.
Chaque jour, environ 500 Sud-Catalans arrivent en autobus, floqués à l'effigie de Puigdemont. Mais beaucoup d'habitants remarquent à peine cet afflux.
Je suis tombé au courant en regardant les bus et en comprenant du coup, mais avant ça, non, pas plus que ça. J'ai vu beaucoup de plaques espagnoles par contre.
On n'était pas au courant, je sais pas pourquoi Argelès. Je suis surpris de ne pas en avoir entendu parler.
Il faut dire que beaucoup sont des retraités. Ils partent en bus dans l'après-midi, restent 3 heures à Argelès et mangent sur place grâce à des food trucks venus de Barcelone. Puis repartent en autocar.
On vient au meeting et puis on repart à Rosas. L'été, on vient plus souvent, mais là, c'est vraiment juste pour voir le président.
Comme on vient en autobus, on nous a dit qu'à 9h30, on devait repartir, donc on n'a pas le temps de faire grand-chose.
Seuls quelques sympathisants arrivent en voiture et donc se baladent en centre-ville d'Argelès. Ludo les a remarqués, il tient le café Bronzette.
Énormément de Catalans. Ils viennent autant prendre un petit déjeuner que boire un verre. Un plaisir de les recevoir.
Pour Carles Puigdemont, applaudi comme une rockstar chaque soir, l'accueil ici est très chaleureux. Il a seulement répondu à nos confrères de France 3.
C'est fantastique. En fait, je me sens comme chez moi. Tout le monde est très gentil avec nous. Tous les gens qui viennent ici, ils sont très bien accueillis. Dans les restos, dans le bar, dans les hôtels.
Jusqu'au 9 mai, des autobus en provenance de toute la Catalogne viendront chaque jour à l'espace Jean Carrère.
Mais à vélo, une opération gouvernementale pour encourager la pratique. En un an, le nombre de Français qui enfourchent leur vélo a grimpé de 5%, notamment en ville pour aller au travail. Sauf que certains ont encore du mal à franchir le pas par peur de rouler, notamment à côté des voitures. Des cours de vélo-école font donc le plein ces derniers mois. Romarie Caillet a suivi une de ces formations à Ris-Orangis, dans l'Essonne.
Les élèves ne sont que 3, ils passent chacun leur tour.
Est-ce que tu peux traverser et nous rejoindre avec un piège?
Éviter les pièges, Benoît Carouet est moniteur, il donne des cours dans toute la région parisienne.
Pour beaucoup d'adultes qui ont arrêté de faire du vélo depuis leur enfance, se remettre à rouler en vélo en ville, c'est une vraie peur de l'accident.
Encore plus quand les villes ne sont pas forcément aménagées pour les cyclistes.
On s'adapte au contexte tel qu'il est, ici il n'y a pas de piste cyclable, on apprend à bien se placer sur la chaussée et à bien prendre toutes les marges de sécurité nécessaires.
Tu as fait toute la longueur vraiment pas loin du trottoir. Il y a la moitié qui vont tenter de passer en force en te frôlant.
Depuis plusieurs mois, Wassima, la trentaine, vient régulièrement suivre des cours. Elle écoute attentivement les consignes avant de s'insérer dans un rond-point.
Avant, j'avais peur. J'ai appris à faire le rond-point.
En 2022, selon la sécurité routière, 245 cyclistes sont morts. Le code de la route pour les voitures peut être contre-intuitif à vélo.
Le panneau te dit, pour le cycliste, il n'y a plus de feu rouge, c'est un céder le passage. Pour les gens qui ont le permis, le fait de passer au rouge, il y a une espèce d'obstacle psychologique.
Je ne sais pas s'il fallait passer.
Aïssa, il a repris le vélo après l'avoir délaissé 40 ans.
La prochaine fois, je ne peux pas le faire. Mais là, aujourd'hui, pour la première fois, ça me fait peur.
Avec les Jeux Olympiques, beaucoup de Franciliens veulent utiliser leur vélo plutôt que leur voiture. Les cours de Benoît sont très vite complets.
C'est le plus français des chanteurs hollandais.
Dave, bien sûr, fête aujourd'hui ses 80 ans et donnera un concert au Grand Rex le 21 mai prochain. Dave, les années 70, aux côtés de Claude-François Nana Mouskouri ou encore Annie Cordy. Dave, c'est aussi 50 ans de carrière qui va le tenter de résumer en une soirée, Mathieu Culeron.
On oublie.
Pour cette date anniversaire au Grand Rex, Dave reprendra ses plus grands tubes grâce à une voix qui finalement n'a pas trop changé.
J'ai la grande chance d'avoir plus ou moins la même voix 50 ans après. Et ça, c'est une chance inouïe.
Dave qui jouera également les chansons moins connues qu'il a écrites et dont il est particulièrement fier.
Tout ce que je sens, c'est la cigarette.
Il y en a au moins une ou deux que je suis assez fier. La cigarette qui brûle mes doigts, qui me plaît bien. et Raconte-moi le mensonge. C'est des chansons, c'est pas du très grand français, mais c'est du sincère, c'est de l'intègre, donc je vais le faire sur scène. Je ferai ces chansons-là à la guitare.
La popularité de Dave n'est plus à démontrer, pourtant lui n'a jamais suivi un plan de carrière.
Mais moi, je me considère encore aujourd'hui à tort, mais comme un vieux beatnik, parce que c'est ma génération, le beatnik. Et donc, s'il y a bien un gros mot pour un beatnik, c'est le mot carrière. Donc je ne voulais pas faire carrière, je voulais chanter et je voulais vivre en chantant.
Dave, au Grand Rex, c'est plus de 50 ans de carrière et un humour qui, en 80 ans, n'a pas pris une ride.
Quand on me dit qu'il ne fait pas mon âge, je dis « vous ne m'avez pas venu » et je vous le déconseille vivement. À bientôt.
J'irai bien refaire un tour du côté de chez Swan.
Inter, 8h11, le journal des sports.
Bonjour Nicolas Péronnet.
Bonjour Victor.
Les 100 et or se rapprochent de l'Europe.
Eh oui, la bonne opération pour débuter le week-end des Lensois dans ce sprint final de la Ligue 1. Victoire capitale hier soir dans la course à la qualification européenne. C'était face à Lorient, 2-0. Elle consolide pour Lens la 6e place avec 5 points d'avance désormais sur Marseille et Lyon. L'attaquant Eli Wahi, buteur, s'en félicite évidemment au micro de Prime Vidéo.
On savait que ça n'allait pas être un match facile ce soir et je pense qu'on l'a très bien démontré tout au long de la rencontre et on peut être très fiers de nous. Je pense que cette victoire va nous faire du bien, elle va permettre de nous relancer pour cette fin de saison et j'espère qu'on finira en beauté sur les deux derniers matchs.
Voilà, soirée de championnat marquée également par la victoire de Toulouse à Toulouse de Montpellier 2-1 qui confirme donc le maintien des Héraultais en Ligue 1.
Un week-end de football marqué aussi par une petite révolution, Nicolas.
Oui, qui concerne l'arbitrage. La sonorisation des arbitres va être testée cet après-midi à l'occasion de la finale de la Coupe de France féminine entre le PSG et Fleury. Concrètement, l'arbitre principal expliquera au micro ses décisions lors des recours à l'assistance vidéo. Un autre test sera organisé pour la finale masculine avant la généralisation de ce dispositif à toute la Ligue 1. Ce sera pour la saison prochaine.
À propos d'arbitre, il y en a un qui a connu une soirée agitée hier soir.
Oui, celui de la rencontre de Ligue 2 entre Troyes et Valenciennes. Match définitivement arrêté hier soir en raison de fumigènes lancés sur la pelouse par des supporters troyens. Une ambiance délétère, des supporters mécontents de la situation du club qui file tout droit en national. Le score était de 1-0. Scène surréaliste, certains joueurs de Troyes, dépités, ont eux-mêmes renvoyé quelques fumigènes en tribune. Les sanctions devraient être lourdes et pourraient sceller définitivement la relégation du club.
C'est aussi le coup d'envoi d'un temps fort de la saison cycliste aujourd'hui, Nicolas.
Un premier grand tour, le grand départ du Giro avec un immense favori, le Slovène Tadej Pogacar. Les autres, Fanny Lechevestrier, devront sans doute se contenter des miettes.
On aurait même envie de dire qu'à part la météo souvent capricieuse, Pogacar n'a aucun rival pour le tout premier Giro de sa carrière dont il a fait l'un de ses grands objectifs de la saison. Lui qui vise même le doublé Tour d'Italie, Tour de France, une performance plus jamais accomplie depuis 26 ans et le sacre de Marco Pantani en 1998. Mais on le sait, quand le Slovène se fixe un but, il manque rarement sa cible. Les chiffres parlent pour lui. 10 jours de course cette année, 7 succès. 5 grands tours courus à 25 ans pour autant de podiums. Et sur ce Giro, on voit mal les anciens comme Geraint Thomas, Nairo Quintana ou le français Romain Bardet pouvoir le priver d'un triomphe romain dans 3 semaines. Certains le pensent même capable de s'emparer du maillot rose de leader dès cet après-midi pour ne plus le lâcher. Un exploit déjà réussi par Gianni Bugno en 1990, mais surtout en 1973 par le cannibale Eddy Merckx à qui Pogacar est de plus en plus souvent comparé.
Une première étape de 140 km dans la région de Turin qui pourrait, donc si Pogacar le veut bien, sourire pourquoi pas à Julien Alaphilippe. C'est un profil qui pourrait lui convenir.
C'était le journal des sports. Merci Nicolas Péronnet.
Dans le journal de Victor Dolande, vous pouvez tous les deux quitter le studio en petite foulée. Il est
8h15. Tout de suite.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Céline Dacosta, le défilé des averses continue.
Oui, ce matin, c'est surtout sur la moitié ouest qu'on les retrouve. Du sud de la Bretagne jusqu'en Aquitaine et Occitanie, en passant par les Pays de la Loire, la région centre, des averses qui remontent déjà par la Bourgogne vers la Champagne-Ardenne. Des averses qui vont gagner quasiment tout le pays cet après-midi, qui seront parfois soutenues et orageuses, avec un petit peu plus de vent, surtout sur la moitié nord. Des Pyrénées-Orientales jusqu'en région PACA et en Corse, là, on va rester au sec toute la journée, avec un soleil qui sera quand même bien voilé. Quelques éclaircies, un temps plus sec là aussi. sur le flanc est de l'Alsace à la région Rhône-Alpes pour cet après-midi.
Avec des températures encore un peu fraîches ce matin.
Oui, c'est vrai, Belfort 4 petits degrés, un gros contraste avec Biarritz où il fait déjà 16 en ce moment. Cet après-midi, on va rester proche des normales, on sera quand même un petit peu en dessous. On va quand même gagner quelques degrés par endroit. Biarritz, il faisait 17 degrés hier, il en fera 22 cet après-midi. On attend 19 à Lyon, 17 à Nantes, 16 à Paris, 15 à Reims et 14 pour la plus basse, l'une des plus basses en tout cas à Cherbourg.
Merci Céline Dacosta, il est 8h16, géopolitique.